And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this?
A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy.
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds.
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu qui revient de Brossard. Bonjour Arpin.
Bonjour, oui, on enregistre pendant le jour du souvenir. Alors, Martin Saint-Louis a commencé son point de presse en remerciant tous les anciens militaires et les militaires d'aujourd'hui. Qui travaille pour nous. Alors, j'aimerais faire la même chose s'il y a des anciens militaires ou des militaires actuels qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Très bonne initiative, effectivement. Je me joins à toi pour les remercier pour leur service. Écoute, Arpin, on a vu encore cette semaine beaucoup de production de la part du premier trio, celui de Suzuki, Caulfield et Kirby Doc. Kirby Doc, une performance de 2 buts. Je me suis amusé à troller les Blackhawks de Chicago en disant que Kirby Doc, s'il portait l'uniforme des Blackhawks, serait le premier marqueur de l'équipe en vertu de tous les points qu'il a accumulés jusqu'à maintenant. Évidemment, s'il portait l'uniforme des Blackhawks, il ne serait pas dans une situation probablement où il aurait récolté 12 points en 14 matchs, comme ça a été le cas depuis le début de l'année. Cela étant dit, il passe la gratte en ce moment depuis qu'il est aux côtés de Suzuki et Caulfield. Puis, tu sais, on en a discuté déjà de Doc, mais j'ai l'impression que très rapidement, on a fini par prendre Nick Suzuki pour acquis. Et on ne devrait pas parce que, honnêtement, c'est assez impressionnant de voir que ce gars-là, non seulement clairement s'améliore d'année en année, puis on voit qu'en ce moment, il est en train de franchir une nouvelle étape dans son impact sur le match, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que tout ce qu'on voit sur la glace, ça arrive de concert avec le fait qu'il porte le C de capitaine maintenant. Plus jeune capitaine de l'histoire du Canadien, puis on le sait, on a... T'sais, on a discuté, toi et moi, assez souvent avec Max Pacioretty par le passé pour savoir à quel point ça avait pesé lourd sur ses épaules d'être à la fois celui qui devait transporter l'équipe offensivement, puis également être celui qui donnait l'exemple puis qui prenait les responsabilités de capitaine. C'est assez impressionnant, je trouve, de voir Nick Suzuki aller et qu'il ne ressente pas, ou du moins qu'il ne traduise pas l'impression d'un gars qui ressent cette pression-là. Il avance dans sa saison, puis capitaine, pas capitaine, c'est comme s'il n'y a rien qui change.
Oui, effectivement, Martin Saint-Louis a été demandé cette question-là. En fait, la question par notre collègue Eric Engels qui lui demandait s'il voit quelque chose en particulier qui est différent dans le jeu de Suzuki cette année. Puis et Martin n'était pas capable vraiment d'en identifier un aspect nécessairement, mais ce qu'il a dit, c'est que son bon début de saison, c'est un peu la preuve que Nick était prêt pour ce rôle-là de capitaine, puis je pense que c'est quelque chose que La haute direction et Martin, on en discutait pas mal. Est-ce que ce gars-là est prêt à son âge de prendre ce fardeau-là, d'être capable de jouer son jeu et continuer à produire en étant capitaine? Et tu sais, une partie de sa réponse, c'était que Suzuki est capable de. Il démontre que tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui vient avec le rôle de capitaine, ne l'affecte pas vraiment sur ce qu'il fait sur la glace. Il est capable de séparer les deux. Et ça, c'est une bonne qualité d'avoir pour le capitaine, oui, mais pour n'importe quel joueur qui joue à Montréal, c'est quelque chose que tu as besoin de bien faire. Puis je pense que Nick, tout au long de sa carrière, en fait, on est déjà rendu à sa quatrième année à Montréal, mais il a démontré cette capacité-là. T'sais. Je pense pas qu'il prend trop toutes les responsabilités médiatiques, toutes les autres choses. T'sais. C'est un gars qui est quand même passé l'été à Montréal. C'est un gars qui aime ça, l'idée de faire partie de l'organisation du Canadien de Montréal. Et juste étant capitaine, je pense qu'il a la personnalité pour être capable de garder tout en perspective puis vraiment réaliser que la première chose qu'il doit faire, c'est de performer sur la glace. Et toutes les autres choses sont secondaires. C'est pas tout le monde qui est capable de réaliser ça. Mais lui, il a le genre de personnalité quand même assez calme, assez à niveau, là. C'est quand même quelque chose, pas trop haut, pas trop bas. C'est quelque chose que je pense que Nick est capable de saisir. Et c'est difficile de lui voir aller sur la glace cette saison puis dire autrement, là.
Ouais, puis c'est... J'ai toujours senti chez Suzuki qui était, pour continuer dans ce que tu disais, j'ai toujours senti chez lui une petite distance, un petit décalage par rapport à ses performances où c'est clair qu'il prend ça à cœur puis il attache énormément d'importance puis c'est sa priorité, mais il ne va pas non plus être complètement obnubilé par les résultats et... Et faire en sorte que si jamais il traverse des passages à vide, ça va l'étouffer. T'sais. Très souvent même, il y a comme ce, quand il nous parle, il y a souvent une espèce de demi-sourire, comme s'il est capable de rester au-dessus de la mêlée par rapport à quand ça va très bien, quand les choses vont vraiment pas bien. Il est capable de survoler les situations. Puis je pense que ça, le fait de pouvoir garder la tête froide, ça fait en sorte qu'il est ce genre de joueur-là qui peut bien composer avec la pression de Montréal. Puis tu fais bien de mentionner que c'est pas l'apanage de tout le monde. Tu sais. Il y a des joueurs pour qui ça devient lourd qu'on parle d'eux autres, qui deviennent le centre d'attention. Même quand ils vont bien, à un moment donné, c'est comme les gars, lâchez-moi un peu. Tu sais, ça, il y en a des gars de même. Mais lui, on dirait que ça reste un petit peu indifférent par rapport à ça. Il se concentre entièrement sur son rôle. Mais cela dit, Martin Saint-Louis s'est fait poser la question à savoir s'il y avait quelque chose de différent dans son jeu. Moi, j'ai l'impression, quand je le regarde aller, qu'il y a une vitesse de plus dans son coup de patin qu'il n'avait pas l'année dernière. C'est-à-dire... Pas au niveau peut-être de sa pleine vitesse, mais il y a des foulées. Tu sais, des fois, on parle des deux, trois premières enjambées. Fait que c'est pas l'explosion au départ, mais sauf que quand, par exemple, il est en zone neutre, souvent, tu sais, il est en troisième vitesse puis il a besoin de passer en quatrième vitesse. Il y a comme des... Il peut avoir trois ou quatre enjambées qui vont lui permettre d'atteindre cette vitesse supplémentaire-là. Et j'ai l'impression qu'il va chercher cette vitesse-là plus souvent qu'il le faisait la saison dernière, parce que toutes les saisons précédentes, de temps à autre, il y avait des pointes de vitesse, puis on disait, oui, OK, ce gars-là, il l'a dans son jeu, mais ça semblait aller et venir. Il y avait des matchs où tu avais l'impression qu'il était plus rapide que d'autres. C'était un peu étrange. C'était pas un gars qui était constamment rapide ou constamment, le gars, tu te dis, voyons, il me semble qu'il pourrait être plus rapide. Ça fluctuait beaucoup, tandis que j'ai l'impression que cette année, dans son coup de patin, il y a un il y a un spring de plus qui fait en sorte que ça l'aide à être plus explosif, surtout quand il rentre en zone adverse.
Oui, en fait, ben, j'ai pu demander exactement cette question-là parce que j'ai la même impression qu'il y a un certain pop dans son coup de patin, un certain niveau d'explosion pour en entrée de zone, en contournant des défenseurs qu'il n'avait peut-être pas l'année passée. Lui, en fait, je l'ai demandé s'il a travaillé avec un entraîneur de patinage pendant l'été, parce qu'il l'a fait par le passé avec Barb Underhill, qui est comme un peu, ben, en fait, la personne le plus responsable pour Braden Point devenir quelqu'un que son coup de patin faisait un peu défaut, ce qui était un peu un des raisons qui a chuté dans son année de repêchage, puis rendre ça une force dans son jeu. Et Nick a dit non, pas cet été, parce qu'il était à Montréal tout l'été, comme j'ai mentionné tantôt. Il a dit qu'il a travaillé un peu sur son coup de patin avec Adam Nicklaus, mais pas tant que ça. Et lui, en fait, il voit pas beaucoup de différence dans son coup de patin de cette année comparé à l'autre. Il a dit, j'imagine que c'est là, parce que sinon tu ne me demanderais pas la question. Alors j'imagine que toi, tu le vois, tant mieux. Mais moi... Lui, il n'a pas cette impression-là, ce qui est un peu normal, parce que quand tu patines à chaque jour au cours de l'été, c'est un peu comme quand avec tes enfants qui grandissent, puis quelqu'un voit ton enfant après 3-4 mois, puis tu dis « Oh my God, t'es tellement plus grand », puis toi, comme parent, tu ne le vois pas parce que tu le vois à chaque jour. J'imagine que Nick, à chaque jour... Il voyait son coup de patin s'améliorer peu à peu. Tu le réalises peut-être pas. Mais pour nous, après plusieurs mois, depuis l'année passée, de le voir cette année, je pense que c'est assez évident que... Ce qui est évident à moi, à mes yeux, c'est qu'avant, son coup de patin était vu comme une faiblesse, comme Braden Point. C'était quelque chose qui n'était pas considéré une de ses forces du tout. Je ne dirais pas que c'est une de ses meilleures forces maintenant, mais c'est clair que... non seulement que c'est pas une faiblesse, mais on a vu à plusieurs reprises cette saison où son coup de patin lui a permis de faire des jeux que je pense, à mon avis, il n'aurait pas été capable de faire l'année passée.
OK. Écoute, dans tout ça, il y a quand même un peu, je ne vais pas appeler ça un éléphant dans la pièce, mais son début de saison doit peut-être être tempéré par le fait que sa moyenne, surtout quand on regarde dans la colonne des buts, il est très productif depuis le début de la saison, mais Suzuki est aussi aidé par un taux de conversion de lancer, un shooting percentage qui est extrêmement élevé, encore plus que celui de Caulfield, qui lui est habitué de tirer davantage au volume. Ça t'inquiète-tu Ben en tout cas, ça annonce nécessairement qu'à un moment donné, c'est pas un rythme qui va pouvoir, que ce duo-là va pouvoir garder toute la saison. On le comprend. Mais est-ce que c'est. À quel point penses-tu que ça dope les résultats, puis que dans le fond, cette régression-là, il faut s'y préparer, puis c'est peut-être. Ça masque un petit peu d'autres réalités du trio de Caulfield et Suzuki, étant donné que justement, dès que Suzuki tente un tir, on dirait qu'il touche le fond du filet.
Ben, en fait, c'est pas le même dans les deux cas, je trouve. Caulfield, en ce moment, a un taux de réussite de 14,8%. Ce qui me semble est quelque chose avec son tir qui serait peut-être capable de maintenir. C'est un peu élevé, mais pas tant que ça. T'sais, Suzuki, en ce moment, est à 27,3, ce qui veut dire qu'il marque un but... pour chaque moins de 4 tirs qu'il prend au filet. Ce qui est évidemment, il ne serait pas capable de continuer à ce rythme-là, mais en termes des points qu'il génère, je pense que si Caulfield est capable de continuer plus ou moins à ce rythme-là, ce qui est quand même un peu réaliste, peut-être pas à 14,8, mais s'il s'installe vers les 13%, là, je pourrais voir Caulfield continuer comme ça, avec le tir qu'il a, puis avec sa capacité de trouver des espaces pour décocher ce tir-là. Il y a quand même 54 tirs au but en 14 matchs. Ça inclut pas évidemment les tirs bloqués ou les tirs où il a manqué le filet, ce qui est énorme, c'est beaucoup. Alors, s'il continue à tirer avec ce volume-là, puis maintenir un assez haut pourcentage, ça va dire que c'est aussi... Suzuki devrait être capable de continuer à produire des points, et peut-être pas autant de buts qu'il marque en ce moment. Alors non, je pense pas, tu sais, je pense pas que c'est un éléphant dans la pièce. C'est un peu normal quand t'es sur une lancée. Puis il faut mentionner Suzuki, depuis le début de la saison, il jouait 14 matchs, il y a seulement 4 matchs où il n'a pas produit de points. Alors, ouais, il est définitivement sur un lancé en ce moment. Mais dans son cas, tu sais, je suis pas trop inquiet. Tu sais, c'est évidemment, il va tomber un peu en panne en termes de buts. Là. C'est 9 buts en 14 matchs pour lui, c'est beaucoup. Ce qui est aidé par ce pourcentage-là. Mais en termes de fabriquer des jeux, puis si Kirby Dach est capable de continuer comme il fait en ce moment, non, je vois pas. Tu sais, 17 points en 14 matchs, peut-être la façon que les points sont repartis, tu sais, 9 buts, 8 passes, peut-être que ça va être différent, plus de passes, moins de buts. Ouais. Mais la production de 17 points en 14 matchs, je trouve que c'est quelque chose que Suzuki pourrait maintenir avec la façon qu'il joue en ce moment-là.
Oui, absolument. Surtout que, tu sais, si Dach développe une propension à aller au filet, il y a peut-être des tirs que Suzuki va faire à 55 qui ne toucheront pas la cible nécessairement ou qui ne seront pas des buts, mais qui vont quand même générer des retours de lancer. T'sais. Alors, parce que là, pour l'instant...
Ce qu'il doit voir de Dach, c'est le même problème à Chicago, c'est qu'il faut qu'il tire plus souvent. C'est comme, ouais, il faut qu'il ait confiance dans son tir, puis je pense... en jouant avec Suzuki. Puis ce qui est intéressant de ce trio-là, c'est à quel point Dach, il mentionne tout le temps, en parlant de ce qui va bien avec le trio, c'est que, premièrement, les trois gars aiment passer du temps ensemble en dehors de la glace. Ils vont sortir souper sur la route ensemble. Puis même, ils vont parler de hockey ensemble. Ils voient la game de la même façon. Dach mentionne souvent à quel point lui et Suzuki en particulier... ils sont sur la même page en termes de leur compréhension du jeu, comment le hockey devrait se passer, où ils se retrouvent sur la glace. Toutes sortes d'affaires qui définissent un peu la chimie entre deux joueurs. Dach, ça fait 3-4 fois que je l'ai entendu mentionner ça, que en termes de la façon de voir la game, ouais, la façon dont ça devrait être joué, les deux ont beaucoup en commun de la façon qu'ils voient ça. Alors... ça, c'est prometteur pour que le trio reste ensemble puis continue à produire. Mais oui, tu sais, après 14 matchs, Kirby Dach a 24 tirs au but. Je pense que ça va s'améliorer à un moment donné, mais c'est quelque chose que lui est conscient qu'il doit faire plus souvent parce qu'il s'est fait dire exactement la même chose à Chicago pendant qu'il était là. Et en restant sur ce trio-là, il devrait être capable de le faire. Et s'il réussit à faire ça, je pense que les opportunités pour Suzuki de continuer à produire des points, ça va juste être encore meilleur.
Ouais. Généralement, les statistiques avancées n'ont pas toujours été flatteuses à l'endroit de Suzuki. C'est un gars qui, entre autres à cause de ses confrontations difficiles, se retrouve souvent à être à la traîne en termes de chances dangereuses de marquer ou de buts attendus, des choses comme ça. Mais c'est quand même intéressant de noter que depuis que Dach joue à sa droite, donc depuis le match à Saint-Louis, au milieu du voyage de 4 matchs que le Canadien a eu à la fin octobre, donc ça, on parle de 8 matchs. Le Canadien, quand même, ce trio-là a le dessus au niveau des tirs au but. Ils ont récolté 54,7% des tirs au but. Leur trio à forces égales, donc depuis en 8 matchs, c'est quand même très intéressant.
6 matchs, ça fait 6 matchs.
Oui, excuse-moi, 6 matchs, oui, c'est ça. Exact, oui. Et puis bon, ils ont marqué, ils ont marqué 8 buts ensemble, ils en ont encore des 3. Donc ça, c'est quand même c'est intéressant parce que ça permet autant la colonne des buts, la colonne des tirs, le Corsi également, donc le ratio de tentatives de tir est positif là aussi. Donc, c'est là qu'on voit la différence avec Josh Anderson, parce que quand Josh Anderson était avec Suzuki et Caulfield, ce trio-là, à 55, se faisait manger complètement. Alors, il y avait quand même de la production ici et là que Suzuki et Caulfield étaient quand même en mesure d'aller chercher sur des contre-attaques, mais ce n'était pas nécessairement un trio qui arrivait à s'implanter, passer du temps en zone adverse, puis être une menace sur des présences entières à 5 contre 5. Mais là, manifestement, avec Doc, ça clique beaucoup mieux. Puis, j'ai hâte de voir combien de temps l'expérience va se poursuivre. Puis, tu sais, pour l'instant, je pense pas que Martin Saint-Louis soit aucunement pressé de replacer Doc à la position de centre. Mais il doit être certainement très content que un gars de 21 ans comme ça qui débarque dans l'organisation du Canadien, qui a un aussi bon potentiel, entame sa carrière avec le CH avec un, tu sais, sur une note aussi positive, puis qu'il y ait des bonnes vibes là, tu sais, par rapport au fait de jouer à Montréal, puis dire je porte ce chandail-là, on me fait confiance, puis je produis. Fait que ça, c'est le fun.
Oui, mais je pense que Saint-Louis est aussi conscient que je pense que l'organisation continue à voir Doc comme un joueur de centre de l'avenir. Mm-hmm. Et Saint-Louis, à l'entraînement où la première fois qu'il a placé Doc avec Suzuki et Caulfield à Saint-Louis, ça devient mêlant avec Saint-Louis, dans la ville de Saint-Louis. tu sais, il a été demandé cette question-là. Es-tu conscient que en le mettant à l'aile, peut-être que tu n'aides pas le but final d'avoir Kirby Doc comme joueur de centre? Puis il a dit oui, je suis conscient de ça, mais pour l'instant, on va aller voir comment ça va. Puis je pense que je trouve que l'organisation, oui, c'est important d'avoir des bons joueurs de centre. Oui, ça serait cool si Suzuki et Doc peuvent être le 1 et 2 dans le milieu pour le Canadien pendant des années à venir. Mais il y a aussi comme, il faut juste, je pense pas que Martin, en fait, en particulier, est trop préoccupé par ça parce que c'est Martin voit le hockey un peu comme il n'y a pas vraiment de position après la mise en jeu. Une fois que la game commence, il dit ça souvent. Une fois que la mise en jeu est prise, là tu joues au hockey. Puis that's it. Alors, il voit pas nécessairement. Oui, il aimerait ça développer Doc comme un joueur de centre. Mais le Canadien devrait, en principe, être en position de repêcher un joueur de centre l'été prochain. Il y a Owen Beck qui s'en vient à un moment donné. Je ne sais pas si le Canadien voit Owen Beck comme étant un joueur de centre potentiel dans le top 6. Et là, je projette très loin, là, mais je pense que, à mon avis, le Canadien ne devrait pas regarder trop loin. Parce que ça fait, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé et il est placé, le premier match qu'il a coaché, il est placé Cole Caulfield avec Nick Suzuki. Mm. Depuis ce temps-là, il cherche un troisième pour ce duo-là. Sans succès. Yeah, c'est Hoffman, Drouin, Anderson, mais pas vraiment Drouin, mais Anderson, Gallagher a eu une chance, Pitlick, il y a toute une liste. Monahan, ouais, cette saison. Toute une liste de joueurs qui ont eu leur chance sur ce trio-là, ça n'a jamais fonctionné pour plus que 2 ou 3 matchs. Là, tu sais, à mon avis, je n'ai pas checké, là, mais je pense que ce run de 6 matchs avec Doc, ça doit être le plus de matchs que Caulfield et Suzuki a eu avec le même ailier pour compléter le trio depuis que Martin est là. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui était un problème pour l'équipe. Peut-être pas un problème, mais c'était un défi, disons, pour Martin. Alors, tant que ça fonctionne avec Doc, même s'il joue à l'aile, entre guillemets, le fait d'avoir du succès, le fait d'être sur un premier trio, le fait de produire, c'est toutes des choses qu'il n'a pas pu faire sur une base constante avec les Blackhawks de Chicago. Alors, juste ce sentiment-là pour ce joueur-là, qui a eu plusieurs défis dans sa carrière à date, puis vient de se faire échanger par l'équipe qui l'a choisi quand même 3e au total au repêchage. Avoir du succès pour ce gars-là, ça serait important aussi pour lui, pour son développement, pour sa carrière, pour son avenir. Alors, plus que
c'est
le plus centre ou elle,
c'est ça. C'est plus important. Ouais.
Ouais, c'est ouais. plus. Alors, ça devrait être prioritisé par le Canadien que s'ils sont en train de développer Dark comme un joueur de centre ou joueur de l'aile, à mon avis.
Ouais. Puis, tu sais, on s'en parlait après le match contre les Canucks de Vancouver, mais est-ce que ça se pourrait? C'est vrai qu'une fois que la mise en jeu a été prise, puis peu importe le titre ou la position que tu occupes, sur papier, le fait est que ça dépend où tu es sur la glace, puis ça, c'est ça qui détermine quelles sont tes responsabilités, du moins dans l'esprit de Martin Saint-Louis. Sauf que la mise en jeu en tant que telle, c'est un élément très important pour surtout dans le jeu de Kirby Doc, parce qu'il a connu tellement de difficultés depuis son arrivée dans la Ligue nationale qu'il a lieu de se demander si il fait partie de ces joueurs pour qui ses insuccès au cercle de mise en jeu ont contribué à faire en sorte que ça lui pèse tellement lourd qu'à un moment donné, tu viens à dire « My God, là, si je vais commencer ma présence, je vais aller au cercle de mise en jeu, ça se peut que je perde. » Puis on va être encore pris à courir après la rondelle parce que je vais avoir perdu la mise en jeu. Mmh. Et le fait de ne pas avoir ce souci de ça, puis simplement prendre des mises en jeu de façon sporadique quand Suzuki, par exemple, est chassé du cercle de mise en jeu.
Il en a pris 3 en 6 matchs.
Ça fait en sorte qu'il n'a pas à... Tu sais, toute cette dimension-là disparaît, puis il peut se concentrer sur son jeu, puis si tout le reste s'enligne, ben il peut... Tu sais, il peut se développer, puis plus tard, il sera remis à l'essai au poste de centre. Sauf que je trouve qu'en ce moment, c'est une belle façon de contourner ce qui pourrait être un blocage psychologique en étant employé au centre, puis en perdant autant de mises en jeu. Tu sais, t'as des gars là en ce moment. Écoute, Matthew Barzal, avec les Islanders de New York, gagne 33% de ses mises en jeu. Jack Hughes en gagne 35%. Joe Veleno à Détroit, 29%. Tu sais, ces gars-là, ça doit être jusqu'à un certain point, puis c'est pas des pieds de céleri, c'est quand même, tu sais, tout des choix de première ronde, mais il y en a deux là-dedans que c'est évidemment des joueurs vedettes, là, pas Veleno, mais les deux autres. Mais je pense que pour certains gars, ça doit être, ça peut devenir pesant de dire... C'est clairement, je me fais remettre dans la face plusieurs fois dans le même match le fait que c'est une carence dans mon jeu. Alors, si ça peut, si la situation actuelle peut permettre à Doc de surmonter ça puis de pouvoir passer à autre chose, je pense que c'est toute l'équipe qui va en bénéficier. Là.
Oui, c'est toute l'équipe, mais ouais, surtout Doc, parce qu'honnêtement, cette affaire de mise en jeu, ça le suit, là, puis tu vois qu'il est tanné d'en parler, il est tanné que ça soit. Une chose, tu sais, c'est comme à un certain point, il faut se dire que tu sais, les mises en jeu, c'est tellement quelque chose à part. C'est une habileté qui a rien à voir avec toutes les autres habiletés que tu as besoin pour jouer au hockey. Ça serait plate que cette chose-là, cette habileté-là, qui est vraiment spécifique et n'a pas vraiment rapport avec le reste, que ça nuit à une carrière aussi prometteur que celui de Kirby Doc. Tu sais, c'est comme, alors, tu vois, je suis d'accord. Je pense que c'est devenu un fardeau pour lui, honnêtement. On lui demandait des questions dès le premier jour du camp d'entraînement là-dessus, parce que c'était une des choses qui revenait constamment à Chicago. Alors, c'est quelque chose que, évidemment, on voulait savoir ce qu'il pensait de ça. Mais tu voyais dès les premières questions là-dessus, à quel point il était déjà tanné d'en parler. Il y a 21 ans. Puis, ça a tellement eu une proportion démesurée de l'évaluation de son jeu à date que le reste de ses atouts deviennent un peu secondaires à cette chose-là qui est comme vraiment séparée. Et à mon avis, oui, c'est important les mises en jeu, ça c'est clair. Mais si tu n'es pas capable de le faire, tu as tellement d'autres choses à offrir en étant un joueur de hockey offensif pendant un match de hockey que cette chose-là ne devrait pas prendre une dominance sur les autres, parce que les autres sont bien plus importants à mes yeux. Tu sais, ses capacités en transition, la façon qu'il utilise son porté, sa portée. Il y a une excellente connaissance de comment l'utiliser offensivement et défensivement. Son jeu défensif est un peu sous-estimé. Je pense que Chicago l'a utilisé souvent sur l'infériorité numérique. Alors, je pense que les autres voyaient ça en lui. Mais il est capable de créer des revirements en zone neutre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui suggèrent que ce joueur-là a un énorme potentiel. Et les deux choses, à mon avis, qui suggèrent l'opposé ou qui sont négatifs dans son jeu. A, c'est la mise en jeu. Deux, c'est son volume de tir ou sa réticence un peu de tirer la rondelle et pas faire assez confiance dans son tir. C'est pour ça que le but contre Vancouver, son deuxième, c'est un signe encourageant pour lui parce qu'il n'a pas hésité une seconde. Il a tiré, puis il a marqué, puis c'est un bon tir. Alors, s'il fait ça plus souvent, je pense que le trio complet, effectivement l'équipe aussi, va en profiter pas mal.
On vous a invité depuis quelques semaines à nous soumettre vos questions par le biais de notre boîte vocale. Alors, merci de continuer à le faire. Je veux vous rappeler que vous pouvez en tout temps laisser un message au 646-847-9404, 646-847-9404. Et cette semaine, on a retenu la question d'un intervenant qui voulait nous parler du Rocket de Laval et de deux de ses principaux espoirs. Alors, on va écouter ça, puis on vous revient.
Bonjour, messieurs. Vianney Marcotte. Je suis bien content de pouvoir vous écouter deux fois par semaine systématiquement cette saison. Ma question concerne les principaux prospects du Canadien à Laval, particulièrement messieurs Byron et Primo. J'aurais aimé savoir vos évaluations de leur début de saison. Merci et bonne journée.
Alors, merci, M. Marcotte, pour votre question. Intéressante question, effectivement, à propos de Kaelin Primo et de Justin Barron, parce que ce sont deux espoirs auxquels le Canadien tient beaucoup. Et dans la situation actuelle, on ne peut pas dire qu'ils aident énormément au succès du Rocket depuis le début de la saison. Je vais commencer par mentionner... À propos de Kaelin Primo, au début de la saison, je m'étais entretenu avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle, puis il avait dit « On veut cette année mettre Kaelin au défi, puis faire en sorte que pour favoriser son développement, le mettre dans des positions qui vont être plus challengeantes pour lui. Entre autres, on veut lui donner les matchs du samedi. » Alors, vous savez, dans la Ligue américaine, il y a souvent des deux en deux, le vendredi, samedi, des fois même trois en trois. Il y a aussi un match le dimanche, mais à tout le moins, deux en deux. Et quand c'est le cas, ça peut être un plus gros défi de donner le filet au gardien, évidemment, le deuxième soir d'un back-to-back parce qu'il joue devant une équipe qui est plus fatiguée. Donc, on va se fier davantage sur le gardien pour pouvoir remporter les matchs. Mais étonnamment, depuis le début de la saison, c'est jamais arrivé. À chaque fois, tous les matchs du samedi, c'est Kevin Poulin, son adjoint, qui les a entrepris. Donc, c'est en partant, je trouve que ça met la puce à l'oreille. C'est de deux choses l'une. Ou bien, on fait ça parce qu'on mise davantage le besoin de gagner un match, fait en sorte qu'on va profiter du fait qu'on a des forces fraîches. Et qu'on va y aller avec notre gardien de but numéro un pour au moins essayer de gagner le match du vendredi. Donc, d'une certaine manière, on met tous les yeux dans le même panier. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que c'est nécessairement de sa faute. Il y a eu certaines contre-performances, oui. Mais en même temps, c'est une brigade défensive qui ne lui rend pas tellement service. Quand vous regardez les défenseurs qui sont avec le Rocket cette année, la grande majorité d'entre eux, ce sont des défenseurs à caractère offensif. Justin Barron en est un. Et puis, c'est une équipe qui, pour l'instant, a beaucoup de difficultés à se défendre contre le rush, à se défendre contre les contre-attaques adverses. Et Barron lui-même, puis je peux faire la transition là-dessus, Barron lui-même me disait récemment, il dit « Le gros ajustement pour moi, puis si je dois travailler là-dessus, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale, c'est de contrôler mon gap, c'est de contrôler l'écart entre moi puis le porteur de la rondelle qui attaque. » Et à ce niveau-là, il reconnaissait qu'il y avait du travail à faire. Mais ça, c'est bon pour toute la brigade défensive du Rocket, qui jusqu'à maintenant, cette année, accorde beaucoup de buts, très vulnérable. Ça met de la pression sur l'offensive également. Puis il y a plusieurs éléments offensifs du Rocket qui ne fonctionnent pas. Donc, vous mettez tout ça ensemble, là, puis ça donne une équipe qui n'a pas de bons résultats depuis le début de la saison.
Oui, et c'est dommage un peu parce que, tu sais, au début de la saison ou avant la saison, tu sais, on voyait un peu le portrait à Laval comme quoi il allait avoir plus d'espoir, de qualité, des espoirs que le Canadien espérait voir un jour à Montréal. Avec l'équipe, comme quoi ça allait être peut-être un des plus intéressants éditions du Rocket de Laval spécifiquement qu'on a vu. Je pense à Yann Michak qui est là, évidemment Barron est là, Primo, il est quand même un peu dans une saison, c'est un peu une saison où il faut que ça progresse. Je pense que l'organisation aimerait ça, lui voir prendre un step dans sa carrière parce que, tu sais, l'année prochaine, il va falloir, tu sais, il serait éligible au ballottage, dans le fond. Alors, au camp d'entraînement l'année prochaine, s'ils veulent renvoyer Caden Primeau à Laval, il va falloir qu'il passe par le ballottage, ce qui n'a pas été le cas cette saison. Alors, c'est un peu une saison quand même assez importante pour lui à ce niveau-là. Alors, le fait de les voir avoir un peu moins de succès cette saison, ça doit être décevant pour l'organisation, mais c'est aussi clair que la priorité à Laval en ce moment, c'est le développement des joueurs. Mais il aimerait ça que ce développement-là se passe, dans un environnement gagnant. Et après le run en série qu'ils ont eu l'année passée, je pense qu'il y avait une certaine espoir que même si plusieurs des vétérans qui ont fait partie de ce run-là sont plus là, que les jeunes pourraient un peu prendre la charge et le continuer. Alors, en début de saison, à date, c'est pas vraiment le cas, mais c'est une longue saison et je pense que les minutes que les jeunes jouent vont porter fruit éventuellement.
Ouais, puis tu sais, je pense que dans le cas de Primo, c'est surtout que, étant donné qu'il a tellement été dominant en séries éliminatoires, je pense qu'il y avait... On pouvait espérer qu'il vole des matchs. Ouais. Qu'il en arrive là. Parce que si tu veux atteindre la Ligue nationale à un moment donné comme gardien de but, il faut que tu voles des matchs dans la Ligue américaine. Tu ne seras peut-être pas capable de le faire au niveau de la Ligue nationale. C'est probablement pas ce qui sera attendu de lui une fois qu'il va être rendu dans la LNH, mais dans la Ligue américaine, à un moment donné, si ton équipe devant toi a des difficultés, il faut que tu sois capable de t'imposer. Dans le cas de Barron, c'est un petit peu particulier parce que, bon, c'est un des rares droitiers dans l'organisation, du moins dans les rangs professionnels pour le Canadien. Et on s'attendait tous, autant toi que moi, que sûrement la majorité de nos auditeurs, au moment où le Canadien a commencé son camp d'entraînement, je pense que tout le monde voyait Justin Barron comme étant un des six défenseurs du Canadien.
Parce que le Canadien fait qu'il était un droitier. Ouais.
Ouais. Il voyait, donc, il allait avoir sa place. Il l'a perdu, puis là, il n'est pas dans une position non plus où, étant donné que, malgré son gabarit, c'est pas un défenseur physique, c'est pas un gars qui est dominant défensivement, donc il a besoin de mettre des points au tableau. Sinon, il y a quelque chose qui est insuffisant. La priorité, alors qu'il est avec le Rocket, n'est pas de mettre des points au tableau. Il faut qu'il peaufine son jeu défensif. C'est ce qu'il lui est demandé. Mais il faut aussi que ses attributs ressortent. T'sais. Et là, c'est étonnant. Puis, parce que, on s'attendait... Rappelle-toi, le directeur général Kent Hughes disait... Il faut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement au sein de notre ligne bleue. Il y a des gars qui commencent en bas qui pourraient être rappelés, des gars qui commencent en haut qu'on pourrait descendre, puis qu'on fasse un genre de rotation. Ça a tellement bien été pour les trois défenseurs recrues issus de l'organisation, Caden Gooley, Jordan Harris, Arber Jackey, même Kovacevic qui a été ramassé au ballottage dans l'intervalle. Ça a tellement bien été pour cette brigade défensive-là que là, Barron n'a pas d'autre choix que de manger son pain noir puis de s'améliorer à Laval parce que son opportunité, elle ne viendra pas de sitôt. Et en plus, il y a Michael Matheson qui s'approche d'un retour au jeu, ce qui va encore plus compliquer la donne. T'sais, on a parlé dans un récent podcast du surplus d'attaquants. Mais là, avec Michael Matheson qui a recommencé à patiner avec l'équipe vendredi, qui semble donc qui franchit une étape en direction d'un retour au jeu de ses débuts cette saison, ben là, il va falloir qu'on commence bientôt à parler d'un surplus en défense. Puis un surplus en défense, ça ne favorise pas les chances de Barron de remonter à Montréal.
Non, pas à court terme, mais c'est un dilemme quand même assez intéressant pour le Canadien parce que, tu sais, si tu te rappelles, Ken Hughes a dit plusieurs fois que c'est pas vrai qu'on va avoir quatre recrues en défense. Tu sais, c'est pas vrai, non, on ferait jamais ça, on va pas faire ça. Il était vraiment contre l'idée. C'est vraiment ces joueurs-là, comme tu viens de mentionner, qui a forcé la main du Canadien pour dire oui, effectivement, on va y aller avec ces jeunes-là parce qu'ils démontrent qu'ils sont capables de le faire. Alors, au lieu de prendre un Corey Schoeneman, même un Otto Leskinen, un Madison Bowie pour combler des trous et laisser les jeunes se développer à Laval comme c'était le plan. Je pense que Caden Gooley, l'organisation s'attendait pas mal qu'il y aurait une chance de commencer la saison à Montréal, ça c'est certain. Mais tu sais, Jordan Harris qui joue 20 minutes par match, Arber Jacky qui joue dans la Ligue nationale, point, sans passer une minute à la Ligue américaine. Je pense que toutes ces choses-là, et d'être capable d'aller chercher Kovacevic, toutes ces choses-là, c'était des choses qui n'étaient pas très attendues. Alors, tant mieux pour eux. Mais ce que ça fait, c'est que, tu sais, Canadien a dit, le développement va passer avant toute autre chose. C'est difficile à dire en ce moment que Jordan Harris et Herbert Jacky et Caden Gooley, évidemment, Kovacevic, c'est une catégorie à part parce qu'ils ne peuvent pas l'envoyer à Laval sans le passer par le ballottage. S'il met au ballottage, c'est certain que les Jets vont le réclamer au moins, sinon d'autres équipes. Alors, je pense que Kovacevic, il est pas mal certain de rester à Montréal. Peut-être dans un avenir rapproché. Comme septième, au pire, aussi comme septième, mais je pense pas qu'il va à Laval. Alors, il y a les trois autres. Je pense que Gooley, on peut l'enlever de l'équation aussi. Il a sa place à Montréal. Moi, je ferais l'argument que c'était pas mal le meilleur défenseur du Canadien du premier match à maintenant, à mon avis, David Savard aussi, évidemment, mais Gooley s'améliore à chaque match, puis il est déjà meilleur maintenant qu'il était au début de la saison. Alors, on peut juste essayer de penser ce qui va être à la fin de la saison. Alors, quand on parle de Harris et Jacky, c'est difficile de faire l'argument que ce qui se passe en ce moment n'est pas bon pour leur développement. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que peut-être que Jacky aurait plus de minutes en jouant à Laval. Oui, peut-être. En fait, fort probablement, en fait, définitivement. Harris, pas certain. Tu sais, Harris, quand même, il joue 20 minutes par match. C'est un défenseur top 4 du Canadien en ce moment. Puis, ouais. Tu peux pas dire que il fait quasiment jamais des erreurs. Les erreurs sont très rares dans son jeu. C'est étonnant. En fait, honnêtement, là, c'est juste étonnant. Puis, alors, j'ai pu... Mais avec le retour de Matheson, c'est clair que Matheson va jouer, là, puis il devrait. Alors, tu auras un de ces deux-là, à mon avis, Jacky ou Harris, qui va retourner à Laval, parce que c'est clair qu'ils ne veulent pas que ni l'un ni l'autre regardent des matchs de la passerelle. Là. C'est pas vraiment... ça, c'est pas bon pour leur développement. Alors, tu auras peut-être un qui irait à Laval, puis l'autre va falloir quasiment le mettre à droite, parce que c'est à Edmondson... t'as Gooley, puis là t'as Matheson à gauche. Quelqu'un doit, peut-être qu'il pourrait décider de mettre Edmondson à droite et garder, disons, Harris à gauche. Mais ouais. Mais il y a des décisions qui s'en viennent. Puis ce qui était, j'ai parlé aux deux gars aujourd'hui, vendredi à l'entraînement. Il y avait des réponses quand même assez différentes. T'sais, Jacky était comme, moi je pense pas à ça. Honnêtement, j'ai aucune idée quand lui va revenir. Puis il est assis à côté de lui dans le vestiaire. Il dit, ça me concerne pas, je contrôle pas ça, tout ce que je contrôle, c'est la façon que je joue, et j'essaie de garder mon focus là-dessus. Harris a dit plus ou moins la même chose, mais il dit, tu sais, je serais en train de mentir si c'était pas à quelque part dans mes pensées que oui, effectivement, il va y avoir des décisions qui doivent être prises. Et je trouve ça, d'un point de vue développemental, de développement, que c'est une décision qui est devenue plus compliquée pour le Canadien. Je pense pas que le Canadien pensait au début de la saison que cette décision-là serait si difficile. mais ça l'est en ce moment. Alors, je ne sais pas quand Mathieu va revenir. Martin Saint-Louis n'avait aucune information là-dessus. Je ne sais pas. Il était constant sur cette réponse-là. À chaque fois qu'il est demandé une question sur un joueur blessé, j'ai pu demander à Mathieu, hey, es-tu en avance? Puis il m'a regardé, puis il a souri, puis il dit, tu sais très bien que j'ai pas le droit de répondre à ces questions-là. Alors, je suis comme, OK, j'ai essayé. Alors, mais c'est ça. C'est, il va revenir. Tu sais, s'il patine avec l'équipe, ça veut dire que son retour s'en vient. Quand ça va venir, je sais pas, mais quand son retour arrive, cette décision-là, va falloir que ça soit pris, puis ça va être intéressant de voir ce qu'il décide.
Ouais, ben écoute, moi, tu sais, évidemment, le toute cette discussion-là est liée au fait que aussi on prend pour acquis que tout le monde va rester en santé. Là. Il y a bien des choses.
Ouais,
par exemple, Mathieu revient au jeu dans 2 semaines, ben, il faut passer 2 semaines sans qu'il y ait aucun de ces défenseurs-là qui se blesse. Mais en supposant que ce serait le cas, Jordan Harris non seulement a joué davantage que Jack Eye depuis le début de la saison, mais le fait qu'il évolue en infériorité numérique, je pense que c'est une carte qui joue en sa faveur. Tandis que Jack Eye, on lui a donné quelques présences ici et là récemment en supériorité numérique, mais c'est bien évident que si Mike Mathieu revient au jeu, Mathieu va avoir la part du lion à ce niveau-là. Puis les défenseurs qui ne jouent pas sur les unités spéciales sont toujours un peu plus vulnérables. Mais fondamentalement, au mérite, ni un ni l'autre ne mérite de renvoi dans la Ligue américaine. Donc ça, c'est... Je vais être curieux de voir de quelle manière ils vont procéder. Encore une fois, si tout le monde reste en santé, est-ce qu'ils vont dire, ben là, on a un défenseur en trop, fait qu'on va procéder une transaction? Je sais pas. Mais tu fais bien de mentionner le fait que là, on va se retrouver avec cet enjeu-là des défenseurs qu'on utilise à droite. Ça avait été mentionné très clairement dès le début du camp d'entraînement que ça allait être un enjeu chez le Canadien. Ce l'est d'autant plus étant donné que Justin Barron n'est pas parmi les défenseurs du Canadien. Personnellement, Harris, du côté droit, je n'ai pas trouvé que ça avait très, très bien été. C'est non, mieux de le laisser du côté gauche. Et probablement que Edmondson, du côté droit, ou qui a déjà cette expérience-là à l'échelle de la Ligue nationale, entre autres la saison qu'il a passée avec les Hurricanes de Caroline, il a surtout joué à droite. Je pense que ça peut être... Il peut venir donner un coup de main à ce niveau-là. Et les rares fois où on a vu Gaulier du côté droit, ça a très, très bien été aussi. Fait que ça peut peut-être être une façon de garder Harris dans l'alignement en envoyant soit Gaulier, soit Edmondson du côté droit. C'est vrai que le duo Savard-Gaulier a très, très bien fonctionné depuis le début de la saison. Mais là, en intégrant Mathieu, qui va être un défenseur top 4 dans l'alignement, ben peut-être que ça va forcer Martin Saint-Louis à revoir ses duos. T'sais. Mais... je trouve que c'est vraiment le reflet, la raison pour laquelle le Canadien a une bonne fiche au début de la saison, c'est que les choses se passent beaucoup mieux que prévu avec 3, sinon 4 défenseurs recrues dans la formation. Je pense que ça, le Canadien doit être ravi de voir à quel point les 5 ou 6 premières semaines d'activité dans leur saison régulière a souri à leurs défenseurs recrues, ça n'aurait pas pu mieux se passer.
Non, en fait, c'est exactement le fameux beau problème. C'est un beau problème pour le Canadien, le fait que Jack Eye et Harris jouent tellement bien que ni l'un ni l'autre méritent d'être envoyés à Laval. Ben, tant mieux pour eux. C'est comme c'est quelque chose que le Canadien va prendre, ce problème-là, 10 fois sur 10. Il aime ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, quand ils ont décidé de mettre Rem Pitlick au ballotage, puis effectivement de l'envoyer à Laval, à cause de leur surplus d'attaquants, tu sais, ils auraient pu facilement envoyer Juraj Slafkovský à Laval sans qu'il soit passé au ballotage. La raison qu'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que ça aurait été le mauvais message aux joueurs, parce qu'ils commençaient, ils commençaient à bien jouer. Ils commençaient à comme comprendre un peu comment il peut avoir du succès dans cette ligue-là. Non seulement en marquant des buts, c'est vraiment sa façon de jouer, son style. Il était en train d'apprendre qu'est-ce que ça va prendre pour lui, avec son gabarit, avec ses habiletés, d'avoir du succès dans la Ligue nationale. Peut-être pas cette année, mais dans les années à venir. C'est de vraiment établir ton propre style dans cette ligue-là. Alors, il ne voulait pas passer le mauvais message à un jeune joueur qui est en train de faire ça. Mais là, il me semble, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici le retour de Matheson, qui pourrait être dans 2-3, je ne sais pas combien de semaines. Ça se peut que les Canadiens soient dans une position d'effectivement d'avoir cette conversation-là et de peut-être envoyer un peu de la même façon qu'avec Slafkovský, voulait éviter de le faire avec lui, d'avoir une conversation où tu dis, écoute, tout ce que tu fais dans la Ligue nationale, c'est très bien, puis tu es en train d'acquérir toutes les choses que Slafkovský est en train d'acquérir en jouant dans la Ligue nationale, mais malgré ça, on va t'envoyer à Laval. C'est quelque chose que je pense, la haute direction du Canadien est très conscient que, et particulièrement Ken Hughes, qui était agent de joueur, qui a déjà géré des situations où des jeunes joueurs, pour des raisons un peu hors de leur contrôle, ont été envoyés dans la Ligue américaine ou aux mineurs, puis ils n'ont pas pris nécessairement la façon que l'équipe voulait qu'ils le prennent. Écoute, ça, ils n'ont pas compris nécessairement que quand l'équipe dit « Écoute, ça n'a rien à voir avec ton jeu, on a juste mal pris, puis il faut qu'on t'envoie », que c'est pas, ce message-là ne passe pas toujours aux joueurs. Ken Hughes comprend ça très bien. Alors, ce serait bien... moi, je serais intéressé de voir si cet aspect-là de ça rentre en ligne de compte quand ça vient temps de prendre une décision quelconque, ou s'ils sont capables d'échanger un défenseur, s'ils veulent même échanger un défenseur, ça pourrait peut-être éviter la situation, ou peut-être si le retour de Matheson, comme tu as mentionné, quelqu'un se blesse, ou le niveau de jeu de ou Harris ou Jack Eye commence à baisser un peu. Ça rendra ça plus facile de justifier ça aux joueurs pour dire, écoute, les 3-4 derniers matchs, on voit que c'est un peu plus difficile, on va t'envoyer à Laval, te laisser jouer beaucoup de minutes et s'améliorer, puis une fois qu'on voit une amélioration, on te ramène.
Hey, ça, je pense que toute cette discussion-là initiée est partie du de notre réponse sur Justin Barron puis Caleb Primeau. Merci tout le monde. Merci de nous continuer de nous envoyer des messages sur notre boîte vocale. Je vous rappelle le numéro en terminant pour nous rejoindre sur notre boîte vocale. C'est le 646-847-9404. Et je vous mentionnais tout à l'heure là, que depuis le début de la saison, Caden Primeau avait les matchs du vendredi, puis Kevin Poulin les matchs du samedi. Ben, cette semaine, ça va être différent. Jean-François Hull a décidé d'inverser la chose pour cette semaine. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous du Super Athlétique encore aujourd'hui. On va vous retrouver lundi prochain pour The Athletic Support. D'ici là, le Canadien reçoit la visite de Sidney Crosby pour la deuxième fois de cette saison. Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh qui ont finalement remporté un match. Le diable est aux vaches à Pittsburgh ces temps-ci. C'est une des nombreuses équipes qui est au problème et aux prises avec qui sont en sérieuse difficulté. Fait qu'on va voir s'ils vont être capables de se redresser et de voir s'ils vont être capables de battre le Canadien, puisque le Canadien contre les Canucks en ont fait comment je pourrais dire, leur chou gras. Ça a été. C'était pas beau à voir. Les Canucks l'autre soir, là, c'était pas joli. Alors, merci Arpin.
Merci Marc-Antoine. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bonne fin de semaine. Puis on vous retrouve lundi avec The Athletic Support.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. $50, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.